Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Comment ça va, Célia ?
Ça va très bien, Fabrice, et vous ?
Très bien. Célia Morès sur Nutri Radio, chaque semaine pour cette émission, la sphère neuro. Et depuis le début de la rentrée, là, on explore avec intérêt et fascination la mythologie, les liens entre la mythologie et la psychanalyse, entre la psychologie et la mythologie. Mythologie, on va encore en parler aujourd'hui. Juste avant de vous poser une petite question, si vous étiez une déesse de la mythologie, laquelle seriez-vous, vous, Célia ?
À laquelle je serais Athéna.
Athéna qui est la déesse de ?
La guerre.
Ah ouais, carrément. Oh là là, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à la déesse de la guerre. Waouh ! Ah, c'est violent ça, c'est violent. Pourquoi la déesse de la guerre ? Est-ce une guerrière ?
Oui, puis je pense qu'elle est, elle est décrite comme quelqu'un de très intelligent, rusé, et très belle aussi. Donc,
c'est qui la déesse de l'amour ? C'est Aphrodite.
C'est Aphrodite.
Moi, je dirais Aphrodite. Non, vous êtes directement parti sur
Athéna. J'aime beaucoup Athéna.
Côté guerrière, d'accord. Bon, on se connaît de mieux en mieux. Célia, avec les auditeurs, quel serait vous votre dieu qui se rapproche le plus de votre personnalité ? Vous pouvez enquêter, mesdames, messieurs, je pense que ça doit être très intéressant et très révélateur. D'ailleurs, il y a des prénoms aussi que l'on nous donne à la naissance. Achille, par exemple, il y a plein de choses qui viennent aussi de la mythologie. Et si on creuse un petit peu, on voit le côté lumière, le côté obscurité. Le côté obscurité, parfois, il faut s'y intéresser avant de donner le prénom. Parce que il peut y avoir quelques mauvaises surprises. Donc, aujourd'hui, vous allez justement nous expliquer pourquoi il y a un attrait aussi fort pour la mythologie. Qu'est-ce que ça va nous enseigner ?
Alors, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, la mythologie plaît encore. On adore parler des récits mythologiques. Quand on était enfant, finalement, moi, en tant qu'enfant, et je sais que je ne suis pas la seule, passionnée, on avait envie de s'identifier à ces héros. En fait, il y avait un aspect magique. Et si finalement, la mythologie nous plaît autant, même lorsqu'on est adulte et plus vieux, c'est aussi parce que ça va expliquer finalement, nous aider à comprendre le monde et à comprendre certains de nos comportements. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait des phénomènes qui pour eux étaient inexplicables du côté scientifique, comme les saisons, on l'expliquait par les récits mythologiques. Alors, si on prend l'exemple des saisons, tout à l'heure, pour l'anorexie nerveuse, on a parlé de Déméter et Perséphone. Et bien là encore, le mythe de Déméter et Perséphone va expliquer finalement les saisons. Pourquoi ? Parce que finalement, Déméter, donc la mère de Perséphone, quand Perséphone est aux enfers, elle est triste. Donc du coup, c'est gris. C'est vide, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, etc. Ça serait l'hiver. Alors que lorsque Perséphone revient dans le monde des vivants, va-t-on dire, à ce moment-là, Déméter est tellement heureuse que tout est fleuri, tout est beau, tout est joyeux, il y a des fleurs, etc. Donc c'était une manière d'expliquer, par exemple, les saisons. De se dire, c'est à cause ou grâce à Perséphone qui revient des enfers sur la Terre. Donc là, ça va être la rationalisation finalement de certains phénomènes qui à l'époque étaient inexplicables scientifiquement. Aujourd'hui, on a des explications. Ça va être aussi l'explication des souffrances humaines. Pourquoi est-ce qu'il y a les maladies ? Pourquoi est-ce qu'on souffre ? Pourquoi, etc. Ça va être avec la boîte de Pandore, la fameuse boîte de Pandore qui a été ouverte. Donc justement, alors qu'elle n'aurait pas dû, puisqu'on avait dit, je crois que c'est Zeus qui avait donné cette boîte-là justement à Pandore en lui disant de surtout ne jamais l'ouvrir. Évidemment, très curieuse. Donc là encore, on se pose la question de la femme curieuse dans le mythe, pas très très féministe quand même, la mythologie, plutôt très masculine, encore la femme qui est trop curieuse, qui ouvre cette fameuse boîte de Pandore et qui répand la souffrance sur la Terre. Et à ce moment-là, ils vont expliquer que la souffrance humaine, la souffrance qui existe sur la surface de la Terre, est due finalement à cette boîte de Pandore. Donc finalement, ça va être de donner du sens à ce qui nous arrive. C'est aussi de donner du sens par rapport à ce qui nous arrive à soi, d'aller rechercher soi-même dans les récits mythologiques quelque chose qui peut nous correspondre pour trouver un exemple. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on lit des livres de développement personnel, d'ailleurs, chers auditeurs, lorsqu'on va lire dans d'autres livres et de se dire « je cherche une réponse à mes questions, pourquoi est-ce que je vis ça ? Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» D'où ça vient, on a besoin de réponses. Et aujourd'hui, on enquête scientifiquement, parce que nos connaissances scientifiques, évidemment, chers auditeurs, bien évidemment, ont augmenté, mais pas que, mais quand il n'y a plus ces connaissances scientifiques, parce qu'on ne sait pas l'expliquer, on va se référer à Dieu, on va se référer parfois même à des sciences, allez, pas occultes, mais presque ça, c'est-à-dire à tout ce qui va être divination, etc. On va chercher sur Internet en disant, ben voilà, si je fais ça, je vais gagner. Enfin, on va aller vers les médiums, hein, effectivement, aussi peut-être pour répondre à nos questions. Ben là, c'est un petit peu la mythologie et ça va expliquer effectivement certaines choses. Et ça peut expliquer, et je le répète vraiment, certains de nos comportements. Et encore aujourd'hui, en se disant, ben voilà, ça existait, ça existe, donc je comprends mieux finalement comment moi je fonctionne et je suis prête à l'accepter. Donc là, c'est vraiment aussi un point important. Ça nous fascine parce que ça nous ressemble. Et ça va expliquer effectivement la perception de soi, notre développement, la perception de ce que l'on vit à l'extérieur, les événements extérieurs qu'on ne peut pas expliquer, mais aussi ça va expliquer les événements intérieurs, comment appréhender et finalement faire face à ces événements. On parlait de Psyché qui a fait face finalement aux assauts d'Aphrodite qui était méchante avec elle justement, par jalousie, et ben de se dire qu'elle a réussi à surmonter, ben moi aussi demain je peux surmonter, ça va faire face au fait que je m'identifie et que je surmonte ces problèmes-là, comme Psyché a surmonté finalement les assauts pas maléfiques, mais en tous les cas les méchancetés d'Aphrodite, oui, la mère des roses.
Maléfique, parce qu'on est dans le côté conte et forcément ça nous rattrape. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La mythologie pour mieux comprendre un petit peu le monde qui nous entoure, nos comportements, c'est un petit peu la racine de tout, une des clés peut-être de compréhension de qui nous sommes aujourd'hui et donc du lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Célia Morès, vous allez aussi nous dire que la mythologie nous permet de mieux comprendre certaines valeurs humaines.
Alors totalement, c'est-à-dire qu'en fait, en voyant les dieux agir ou les héros mythologiques agir, on va voir ce qu'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Justement, il y a des messages. C'est-à-dire, lorsqu'on décrit une personne qui a, dans le récit mythologique, entre guillemets, mal agi, ça va permettre de faire comprendre justement en personne ce qu'il ne faut pas faire. Et d'ailleurs, les philosophes de l'époque antique, hein, au niveau Platon, etc., se sont servis des récits mythologiques parce qu'eux aussi avaient des textes parfois très durs à comprendre et très abstraits. Personne ne pouvait forcément les comprendre. Mais en s'aidant des récits mythologiques, ils ont pu faire passer des messages un petit peu finalement. Alors, dans certains écrits, ils considèrent l'Iliade et l'Odyssée, en fait, ces récits mythologiques, comme notre Bible finalement judéo-chrétienne. Ça, c'est un des chercheurs en mythologie qui dit ça. Je dis bien, c'est bien lui qui le dit, c'est pas moi. Je précise pour pas qu'il y ait évidemment de polémique dans ses propos. Mais c'est vrai que même dans la Bible contemporaine, si je puis dire, on va expliquer le bien et le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'était pour ne pas mettre en colère les dieux, etc. Mais c'est vraiment ce phénomène-là. Quelles sont les valeurs? Et avec des récits explicatifs, ça permet de faire comprendre aux gens, ça c'est un comportement à avoir, attention, ce type de comportement, ce type de valeur n'est pas une bonne valeur, et au contraire, voilà ce qu'il faudrait faire, mettre en place. Alors c'est vrai qu'il y a ce phénomène, tout à l'heure on parlait avec Achille de haine, de colère, d'orgueil.
La semaine dernière, vous voulez dire.
Voilà, effectivement, la semaine dernière, pardon, décidément, je m'en mêle les pinceaux. Mais
vous savez pourquoi? Parce que, voilà, chers auditeurs, on est en présentiel avec Célia Morès, et pour tout vous dire, comme ce sont des émissions qui sont enregistrées dans les conditions du direct, mais néanmoins enregistrées, là on a fait quelques émissions d'affilée, et donc là Célia, là, elle est tout à l'heure, mais néanmoins, vous pouvez réécouter tous ces podcasts, et ça n'enlève rien hein, à la spontanéité de ces émissions et surtout de l'intérêt de ce que vous nous dites, Célia.
C'est parce que justement, on est en direct et qu'on ne sait plus.
Exactement.
Voilà.
Ce sera pas monté. Ce sera pas monté au montage. Donc, ce sera pas coupé au montage.
C'est ça. Le temps défile trop vite en fait et vous ne voyez pas le temps passer. Mais c'est vrai que ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va de se dire, ben voilà. Achille a fait passer finalement son orgueil personnel, pas son profit personnel, mais en fait finalement par rapport à ce qui finalement de se dire que le général parfois doit primer sur ce qui est personnel. Et Achille, en ne voulant pas combattre pour la guerre de Troie au départ, bah, avait pour priorité son soi lui-même, ce qui est très humain d'ailleurs, plutôt que
l'intérêt général.
Ça va être aussi Hercule, les valeurs humaines, comme quoi ça va être aussi de se dire, bah, avec Hercule, on va voir que, avec les 12 travaux d'Hercule, avec ce qu'il avait fait, que la persévérance est importante. Donc c'est toutes ces valeurs humaines, ça va être aussi de s'identifier, on le verra aussi en dernière partie d'émission, mais ces valeurs sont importantes. Et il faut savoir que dans la mythologie, on a beaucoup d'aspects effectivement de vengeance, d'adultère, de pouvoir, de tromperie qui existent. Toutes les histoires, c'est ça. Et effectivement, en se servant de ces histoires-là, on comprend qu'il y a certaines choses qui ne sont à ne pas faire et d'autres, au contraire, à faire. Ça va être aussi s'accepter. S'accepter soi-même. Accepter qu'on puisse aussi avoir une part d'ombre et qu'on puisse aussi se dire bah, « Voilà, là, j'ai mal agi. » Accepter aussi l'autre avec, finalement, les valeurs humaines. Accepter le handicap. Ça, c'est important aussi. Dans la mythologie, le handicap, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos sociétés actuelles, est accepté. Héphaïstos, donc, était le fils de Zeus, mais qui avait une malformation physique, qui pourrait être comparé aujourd'hui à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc, il avait des malformations au niveau du genou, des jambes, etc., ou du pied, qui faisait qu'il boitait. Et n'était pas moins un héros et un dieu quand même. Donc, c'est aussi ça. Ça permet d'accepter, évidemment, de prôner des valeurs. Ces valeurs que l'on va utiliser, le bien, le mal, le fait qu'on peut se dépasser, le fait qu'on peut effectivement faire passer l'autre avant soi, le fait qu'on peut effectivement avoir des sentiments négatifs tout en étant quelqu'un de bon et avoir fait de bonnes choses. C'est en fait finalement, effectivement, comme dans notre Bible, j'allais dire plutôt contemporaine, où il y a le bien et le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça va nous permettre aussi d'éviter justement le désastre par rapport aux valeurs humaines, parce qu'on va comprendre que l'orgueil entre Achille et Icare peuvent effectivement peut conduire cet orgueil à un désastre terrible. C'est-à-dire, pourrait nous faire perdre la guerre de Troie. Donc là, c'était récit mythologique, mais ça pourrait avoir d'autres conséquences aujourd'hui, ou alors tout simplement se brûler les ailes. Et là, pour cause, Icare en meurt. Voilà, donc c'est vraiment ce point important-là, c'est retrouver les valeurs humaines et pouvoir aussi transmettre ces valeurs humaines aux autres. Alors là, il y a la mythologie qui plaît beaucoup aux jeunes, mais dans les super-héros que l'on connaît tous, c'est exactement la même chose. Nos super-héros, Batman, Superman, Spider-Man et j'en passe, eux aussi ont des valeurs, on s'identifie à ces valeurs-là, mais en plus ça nous permet de connaître les valeurs, quel est le bien, le mal, le justicier qui va défendre, j'allais dire, la veuve et l'orphelin. Alors c'est un petit peu, c'est une image que l'on connaît tous, mais c'est ça aussi, parce que les super-héros sont issus de la mythologie. Eux aussi, les personnes qui ont écrit les Marvel, les comics, etc., se sont servis des récits mythologiques pour les remettre au goût du jour, avec effectivement tout ce qui est des phénomènes actuels. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a des choses passées qui n'existent plus aujourd'hui, donc remis au goût du jour par rapport à ce qui peut se passer. Donc Batman, qui finalement était là en train de se battre pour combattre la corruption. Captain America, apparemment, combattait le nazisme. Donc, d'après les écrits qui sont écrits dessus, d'après effectivement l'histoire. Donc là aussi, ce sont des valeurs et c'est important d'ailleurs pour les jeunes de se retrouver sur ces valeurs-là, chers auditeurs. Souvent on dit « Ah, ils regardent les films de super-héros », mais c'est qu'ils en ont besoin. Et ces super-héros, ça va permettre de leur transmettre des valeurs sans que nous, fallait dire, alors pour les
sans qu'on
sont...
fasse la leçon,
c'est ça, voilà,
distinguer le bien, le mal, les sentiments humains que eux-mêmes peuvent avoir, et si leurs super-héros préférés ont les mêmes, traversent les mêmes doutes, les mêmes sentiments, déjà ils se sentent un petit peu moins coupables, et ça leur permet aussi d'avoir envie de se surpasser.
Totalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, quand c'est quelqu'un, un parent ou un maître d'école, un professeur qui enseigne les valeurs humaines, ce qu'il faut faire ou pas, c'est toujours plus dur parce qu'en tant que jeune, ils n'ont pas forcément envie d'écouter ou alors c'est rébarbatif. Le super-héros, s'identifier ou quoi, bah, c'est pas la même chose. Ça permet de faire passer des messages. Donc, c'est un petit message à vous, chers auditeurs, c'est que si vous n'arrivez pas, pour les plus jeunes, à faire passer des messages, c'est peut-être d'utiliser ces héros mythologiques et voire même ces super-héros, parce que ça va peut-être permettre d'initier des discussions et de faire comprendre des messages importants aux plus jeunes.
Exactement. On va marquer une dernière pause et on va parler donc d'acceptation de soi et d'identification. C'est juste après ceci sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La dernière partie de cette émission, toujours consacrée à la mythologie, et avant un dernier volet la semaine prochaine. D'ailleurs, après, est-ce qu'on va continuer ce volet mythologique ? Est-ce que ça va se terminer ou est-ce qu'on y fera référence régulièrement ?
Alors, on pourrait y faire référence de temps en temps, effectivement, régulièrement. La semaine prochaine, ça sera plutôt une émission sur l'aspect neurosciences, que je peux même étayer un peu plus, puisqu'il y a beaucoup de choses en neurosciences, vous le verrez, chers auditeurs. Et on pourrait même parler, évidemment, de l'art et de la mythologie, puisque beaucoup d'artistes, chers auditeurs, se sont inspirés de la mythologie dans leurs œuvres d'art. Les artistes, donc, aussi bien du passé, classique, va-t-on dire, et des artistes très contemporains. Donc, on pourra évidemment, si cela vous intéresse, en discuter ensemble pour que vous puissiez comprendre finalement comment les artistes eux-mêmes se réapproprient les mythes et comment est-ce qu'ils vont eux-mêmes les interpréter et nous donner donc des images parfois picturales, que ce soit des photographies, de la peinture ou même des sculptures.
Et si vous avez des questions ou des observations sur ces émissions, vous n'hésitez pas, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact en précisant le nom de l'émission. On parle donc maintenant de la mythologie, mais côté acceptation de soi et identification, parce que c'est ce qu'elle nous permet.
Alors totalement, chers auditeurs et cher Fabrice, c'est que ces récits mythologiques nous permettent de nous identifier, de nous accepter. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, les récits mythologiques décrivent des héros avec des fêlures, des blessures, des comportements parfois, on va dire, négatifs, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes exemptes de tout défaut. C'est d'ailleurs ce que voulaient les dieux de l'Olympe, entre guillemets, si les dieux de l'Olympe ont existé, on va dire ça comme ça, mais voulaient un monde finalement un peu cruel, en tous les cas, finalement un monde réel, pas un monde de bisounours. Et ça fait du bien parce que lorsqu'on voit l'orgueil d'Achille, lorsqu'on voit l'orgueil d'Icare, la jalousie d'Aphrodite pour Psyché, etc., ben ça nous permet de s'identifier et de se dire ben finalement, moi, je suis normale puisque j'ai les mêmes sentiments. Si les dieux eux-mêmes ont ces sentiments-là, pourquoi moi, pauvre humain que je suis, je ne les aurais pas ? Et c'est normal. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que non, je suis pas une mauvaise personne parce qu'à un moment donné, je suis jalouse. Je suis pas une mauvaise personne parce qu'à un moment donné, j'ai envie de me venger. Je suis pas une mauvaise personne parce qu'à un moment donné, j'ai un certain orgueil ou que j'ai réagi mal à une situation telle que la société, je ne devrais pas réagir de cette manière-là dans la société. Donc c'est ça l'identification et accepter qu'on puisse avoir des fêlures, qu'on puisse avoir des blessures pour pouvoir avancer. Donc ça va nous permettre de s'identifier, de se dire je suis comme lui. Comme lorsqu'on s'identifie à un personnage d'un film, comme on s'identifie finalement quand on voit un film, même dans notre monde contemporain, chers auditeurs, on le sait, parfois on va s'identifier au héros. On va voir James Bond, on va avoir envie de s'identifier à James Bond, on va voir tel autre film, on va avoir envie de s'identifier ou se reconnaître dans le personnage d'un livre aussi. Parfois, lorsqu'il est décrit, le livre, quand on voit que le personnage est la description du personnage par l'auteur du livre, on va se dire, il me ressemble. Et ça fait du bien parce qu'on se sent moins seul, on se sent compris. Acceptation parce que finalement, ça nous permet d'accepter le handicap de l'autre, son propre handicap, ses propres pensées. Et finalement, son estime de soi, ça va redorer l'estime de soi parce qu'on va avoir envie parfois de leur ressembler. Et chez les jeunes, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les super-héros, notamment, pouvaient augmenter l'estime de soi chez les plus jeunes. Le fait d'avoir envie... Un jeune, généralement, il a envie de s'identifier à un super-héros. Spider-Man, Batman, Superman. Beaucoup d'enfants ont envie de s'identifier. Et c'est logique, et c'est même naturel, et c'est même sain. Ça augmente l'estime de soi. Et ce qui est important, chers auditeurs, c'est qu'en augmentant l'estime de soi, ça leur augmente la motivation à travailler. Ça leur augmente même leur performance, leur implication dans le travail. Alors, c'est pas que ça va les rendre plus intelligents. C'est tout simplement, comme ils sont plus motivés, plus impliqués, évidemment, les résultats s'en ressentent. Pourquoi ? Parce que si on a une mauvaise estime de soi, on a de mauvais résultats. Donc ça va être ça, ça va être l'estime de soi, ça va être l'acceptation du handicap, on en parlait effectivement en seconde partie d'émission avec Héphaïstos, j'en ai un petit peu parlé, qui a été atteint d'une maladie, une déformation. Mais il n'y a pas que, ça va être aussi Hercule. Nous y reviendrons la semaine prochaine lorsqu'on parlera en neurosciences avec Hercule qui souffrait d'épilepsie. Donc un handicap caché, donc Hercule, ce grand Hercule qui a fait les travaux d'Hercule, qui était un véritable héros, avait une part d'ombre, il était épileptique. Et sans parler des super-héros avec leur part d'ombre, puisqu'à l'époque, bah, les héros pillaient, hein, Achille, etc., pillaient finalement les contrées qu'ils étaient en train de visiter ou avec lesquelles ils étaient en guerre, parce que c'était monnaie courante à l'époque. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça qui va être important. Et puis surtout, ça nous fait rêver, parce qu'on a l'impression d'être des surhommes et on a tous besoin de rêves. Et c'est pour ça que ça nous plaît autant, la mythologie, parce que c'est un aspect de rêve, de magie. De quelque chose qu'on ne peut pas palper et quelque chose finalement qui nous ressemble et dans lequel on se dit ben finalement, Achille, tout Achille qu'il était, grand combattant, lui aussi avait un orgueil mal placé, avait envie des envies de vengeance, pouvait rentrer dans des colères noires. Hercule, ça a été pareil, il était épileptique, donc lui aussi, le grand héros qu'il était, en tant qu'épileptique, il était épileptique. Ça veut dire quoi ? Que les héros ne sont pas exempts de défauts. Je parle de défauts psychologiques, physiques ou avec des problèmes de maladie. Mais les héros de tous les jours, c'est aussi les gens qui peuvent être malades. On peut être un héros et faire des choses exemplaires, des choses magiques, si je puis dire, tout en ayant des défauts, des handicaps.
C'est on l'a pas, vu voilà. Récemment lors des Jeux Paralympiques. Où
totalement, c'est ça.
C'est un exemple de résilience absolue.
C'est ça. C'est un exemple de résilience absolue. Et aujourd'hui, d'avoir vu ces Jeux paralympiques, ça peut donner envie aux personnes de se dire bah, « Moi aussi, je peux être ce héros-là, ce héros, ce sportif qui va gagner des médailles. » Et c'est ça qui est important. Et c'est en ça que la mythologie est importante, parce que justement, les héros mythologiques nous ressemblent, chers auditeurs. Ils ont été dépeints, écrits par finalement les auteurs qui ont créé ces récits mythologiques, comme des êtres humains à part entière. À aucun moment on en a fait des... C'est peut-être des super-héros, mais à aucun moment on en a fait des gens qui n'existaient pas, avec des sans défauts ni rien, parce que justement, ça ne serait pas crédible. Et c'est parce qu'ils ont des défauts qu'on peut s'identifier à eux, et c'est parce qu'ils ont ces défauts-là qu'on, finalement, qu'ils nous fascinent autant.
Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est fascinant, moi, pendant que vous me parlez, en plus je fais des recherches, parce que ça m'a donné même envie de relire l'Iliade et l'Odyssée. Il y a plein d'éditions, d'ailleurs, de ça. Vous conseillez laquelle ?
Alors, je ne conseille pas d'édition, j'en ai pas en tête. Je conseille finalement celle qui serait la plus, pour commencer, celle qui serait la plus facile, la plus simple à lire, pas forcément la plus complète, parce que ça peut être très lourd. Et c'est vrai que moi qui ai eu accès à quelques textes, c'est vrai que parfois c'est compliqué, parce qu'après, il y a la personne qui expliquait voilà ce que ça voulait dire. C'est vrai qu'on pourrait l'interpréter parfois autrement et parfois, ça peut nous aider à chercher nos propres réponses avec nos propres questionnements. Hein.
Et là, quand on parle de mythologie, parce que c'est le thème de ces émissions là depuis la rentrée, mais mythologie grecque, est-ce qu'il y a aussi d'autres mythologies, oui. des mythes égyptiens, nordiques, etc.
Alors, totalement. Totalement, chers Fabrice, chers auditeurs. Donc, il y a la mythologie romaine. Alors, il faut savoir que la mythologie romaine, c'est la même que la mythologie grecque. Par exemple, Athéna, c'est Minerve. Alors, Athéna chez les Grecs, c'est Minerve chez les Romains. Hercule, finalement, c'est chez les Romains parce que c'est Héraclès chez les Grecs. Ça va être ça. Et pourquoi est-ce que c'est exactement la même, sauf quelques noms qui changent les noms qui changent comme cela. C'est que les Romains ont tellement aimé la mythologie grecque, ils se sont appropriés et qu'ils ont juste changé, mais les récits sont totalement les mêmes. Donc, quand on parle de mythologie grecque, on peut parler de mythologie romaine, à savoir que, évidemment, les noms comme ça qui peuvent changer. Aphrodite, Vénus, par exemple. Donc, effectivement, c'est plutôt cela. Après, il y a évidemment toute la mythologie égyptienne, hein, qui est peut-être un petit peu moins connue que la mythologie grecque et romaine, avec Anubis, Ra, le dieu du soleil, etc.
Mais Osiris.
Osiris, effectivement. On va retrouver exactement, de toute manière, toujours ces notions de bien, de mal, d'expliquer les phénomènes, effectivement. Il y a la mythologie que je connais beaucoup moins, mais tout ce qui est mythologie celtique aussi, bien évidemment, qui existe. Et il y a aussi toute cette mythologie que l'on a connue enfant, pour ceux qui, de ma génération, chers auditeurs, ont regardé les Cités d'Or.
Ah ben oui, Esteban.
Esteban Zia, hein, ouais. Et Tao. Il ne faut pas l'oublier, le petit Tao. Et les Cités d'Or, effectivement, dans la chanson, c'était à bord du grand condor, il recherche les Cités d'Or. Bah, faut savoir que ce condor était un oiseau qui pouvait faire le lien entre les deux mondes au niveau de cette mythologie, justement... Mais effectivement, c'est aussi une mythologie, on va retrouver les mêmes choses. Donc il n'y a pas que ces mythologies-là, il y a cette mythologie-là aussi qui existe, et effectivement, avec leurs propres croyances. Mais...
Ce sont des histoires qui se rejoignent à chaque fois.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes concepts décrits différemment, avec des dieux différents, des notions différentes, mais il y a toujours... Allez, de manière latente, les mêmes notions de base.
Eh bien, replongez-vous dans toutes ces mythologies possibles. Vous parlez de la mythologie celtique, on ne connaît pas grand-chose, mais grâce aux super-héros que vous mentionnez avec les Marvel, il y a Thor, évidemment. Mais c'est bien, parce que c'est vrai que les super-héros, les Marvel, tout ça, ça nous permet de se replonger à des références mythologiques et donc peut-être aller encore plus loin si on veut s'intéresser à la racine de tout cela. Et voilà, pour se pardonner un peu soi-même, pour se surpasser, pour être dans la résilience, dans l'acceptation, c'est très intéressant. Et la semaine prochaine, on continuera. Ce volet mythologique que l'on va clôturer. C'est ça, Célia ?
C'est ça, totalement. Voilà, en parlant de neurosciences, chers auditeurs, puisque vous verrez que dans les récits mythologiques, il y a beaucoup d'aspects de neurosciences et de neurosciences modernes, et vous serez étonnés.
Et bien voilà, et donc la boucle sera bouclée. Émission à réécouter en podcast à partir de dimanche 18h. À la semaine prochaine, Célia. J'espère qu'on sera en présentiel. Hein.
J'espère aussi. À la semaine prochaine, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Moresse. Sur Nutri Radio.